proposer ça à côté de Raph, s'il te plaît.
On est sur silence. Je vous demande si je peux le mettre devant lui.
Excusez-moi, je peux poser ça là.
Vous allez commencer.
Oui,
je suis désolé.
Ici parce que j'ai peur de le pousser par terre.
Ça bouge là.
Non mais.
Yitzhak ben Moshe et Broya Léa bat son Ephraim David. Et puis pour la recouche Shlema de Chaim Shmuel Mordechai ben Rina.
Voilà. Notez aussi donc que la prochaine soirée de Mélavé Malka aura lieu Yad Zachem, donc Motsia et Shabbat Tetzavé le 12 février. Et puis, comme d'habitude, vous avez sur les tables des enveloppes pour participation au fait, et vous êtes invités, ceux qui ne l'auraient pas encore fait, à laisser vos coordonnées, si vous voulez, sur la mail notice du Beth Amidrash. Voilà. Bonne soirée.
Ok, Shavua Tov. Je voudrais commencer à parler en fait de deux révoltées, deux femmes révoltées. Et puis on verra que le sujet en fait s'élargit naturellement. La première, la plus inattendue, en fait, la moins connue, c'est la première. Je voulais d'abord citer la deuxième que tout le monde connaît. La seconde, c'est Myriam. C'est la sœur, donc, de Moshe et d'Aaron. C'est une petite fille, d'après le Midrash, qui s'est révoltée contre son père. S'est révoltée contre son père, qui était le grand maître d'Ebné Israël à ce moment-là, et qui avait, à la suite des mesures que Paro avait prises, ses astrologues lui ont dit que le libérateur des Juifs allait naître, était né. Alors il avait pris des mesures pour le tuer. Une suite de mesures allant de jeter les garçons dans le Nil, puis ensuite d'aller les chercher dans les maisons, etc. C'est des mesures qui, comme vous le savez probablement, ne disaient pas leur nom. C'est-à-dire, elles n'étaient pas présentées comme des mesures anti... C'est peut-être pas la définition qu'il faut utiliser. C'est pas anti-hébreux, anti-juif. Mais c'était, officiellement, c'était des mesures qui concernaient tous les garçons. Seulement les décrets d'application, c'est-à-dire les indications qu'on donnait à ceux qui étaient en charge de le faire, c'était que ça ne concernait en vérité que les enfants des Hébreux, que les enfants juifs, on pourrait dire aujourd'hui. Mais l'Égypte a toujours été très soucieuse de ne pas apparaître comme prenant des mesures anti quoi que ce soit d'ailleurs. Simplement, c'était dit de façon... c'était oral, simplement, et c'était dit de façon discrète. Et puis, petit à petit, on a dit aux gens, après... On a dit, oui, mais enfin, si vous en attrapez dans la rue, vous en attrapez, vous les balancez dans le Nil, et que les Juifs portent plainte, bien sûr, on fera un procès, mais on ne trouvera pas de témoins, ou on invalidera, vous risquez rien. Puis après, on leur a dit, vous pouvez aussi aller les chercher dans leur maison. C'est à ce moment-là que Yocheved, la mère de Moshe, n'a plus pu cacher Moshe, puisqu'on venait dans les maisons, et avec la fameuse technique, on amenait un bébé, on le faisait pleurer, et vous savez bien que les pleurs des bébés, c'est contagieux, donc les bébés dans la maison se mettaient aussi à pleurer, donc même si on les avait cachés, on les trouvait, on pouvait les trouver. Et donc à ce moment-là, Paro a pris toutes sortes de décrets, et Amram a décidé que si c'est pour ça, et aussi parce que lorsque il manquait des briques dans les quantités de briques que les Juifs devaient fournir, lorsqu'il en manquait, on emmurait des enfants. Et donc Amram a décidé de divorcer, dire on ne veut plus d'enfants, on ne va pas fabriquer des enfants pour qu'on nous les emmure. Et c'est sa fille qui s'est révoltée et qui lui a dit qu'en fait il était, c'est étonnant, il lui a dit, toi t'es pire que Paro en fait, parce que Paro il a seulement pris des décrets contre les garçons et toi tu prends des décrets contre les garçons et les filles. Et étonné, enfin, ce qui est étonnant, le père a écouté sa fille. Il a écouté sa fille et ils se sont remariés. Et donc les gens se sont remariés donc en imitant ce que faisait Amram. Et Moshe est né après ce remariage. Et ensuite, vous savez bien que Myriam a surveillé ce qui allait advenir de Moshe quand il a été mis sur le Nil. Et c'est elle qui a fait le lien entre la fille de Paro qui avait devant elle le fameux berceau dans lequel il y avait Moshe, qu'elle avait repêché du Nil. Et elle m'a proposé d'aller chercher une nourrice, et la nourrice, c'était sa mère. Ça, c'est Myriam qui s'est révoltée contre son père. Et il apparaît donc qu'elle est, je peux presque dire, en tout cas, un des artisans de la libération des Bnei Israël, donc de l'histoire du clan Israël, l'histoire possible du clan Israël. Ça, c'est très connu. Ce qui est moins connu, c'est la fille de Paro elle-même. Ce qui est moins connu, c'est Bithya. Dans la Torah, le récit qui est fait de cette fille de Paro, de cette princesse, donc, qui descend au Nil pour, je ne sais pas très bien pourquoi c'est, au départ, elle va faire, elle descend au Nil pour se laver, c'est écrit comme ça, l'Irchotz, et puis elle voit un berceau, et elle comprend, elle le fait ramener sur la rive, elle le reconnaît comme un enfant juif, et elle va l'élever, elle va prendre cet enfant, elle va l'élever, et Moshe a été élevé dans le palais même de Paro. À un moment donné, Moshe Rabbeinu est quasiment le prince héritier, jusqu'au moment, jusqu'à 20 ans, à peu près, ou 17 ans, où il sort et il s'identifie, ce qui est absolument incompréhensible, il s'identifie à des esclaves, prince égyptien qui s'identifie à des esclaves, c'est hautement improbable. Et puis, là, il va tuer l'Égyptien qui était en train de frapper, probablement à mort, un juif. Il va être dénoncé par des juifs. Je dis juif, bon, tout le monde sait que ce sont des Hébreux, enfin, c'est avant la naissance du peuple juif, en fait. Et il va devoir fuir. Et puis ensuite, il y a ce fameux trou dans le CV de Moshe, quasiment 80 ans de trou de CV. Et comme je dis souvent, ensuite, quand Hachem lui propose un job, il commence à dire non, j'y vais pas, non, c'est pas moi, mon frère, etc. Avec un trou pareil dans un CV, faire le difficile quand on vous propose un job, aujourd'hui, ce serait difficile, plus difficile qu'alors. Enfin, finalement, il a cédé, il a pris le job, mais il n'a eu qu'une partie du job. Il y a quand même perdu quelque chose. Il aurait dû être Kohen Gadol aussi, et c'est Aaron qui l'est devenu, son frère Aaron qui l'est devenu. Cette femme, cette Bat Paro, dans la Torah, elle est présentée seulement comme Bat Paro, la fille de Paro, elle n'a pas de nom. C'était probablement son nom, la fille de Paro. Je ne sais pas comment il y avait, la fille de Ben Ali, ou, la fille. Est-ce qu'il n'avait qu'une seule fille? Je ne sais pas. En tout cas, celle-là, elle a un statut particulier. Elle s'appelle Bat Paro, mais dans Divrei Hayamim, tout à la fin du Tanakh, tout à la fin, dans les, ce qu'on appelle en français les chroniques, il y a un passouk qui dit « Ve'ele bene bitya bat paro asher lakach mered ». Et ceux-là, on va les énumérer, sont les enfants de Bitya, la fille de Paro, que un certain Mered a épousé. Et voilà qu'elle a changé de nom. Elle s'appelait Bat Paro, et maintenant elle s'appelle Bat Ka, le Yud He à la fin, c'est le nom divin. Elle est la fille d'Hachem. Il y a un Midrash qui dit, Akadosh Baruch Hu lui a dit à Bitya, c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est devenu Batya dans certains endroits, Moshe n'était pas ton fils. Et néanmoins, tu l'as appelé mon fils. Alors, toi non plus, tu n'es pas ma fille. Mais je t'appellerai ma fille. Comme c'est marqué justement dans ce verset que je vous ai cité, qu'elle s'appelle Bitya. Son nom est donc dans le Tanakh, dans la Bible. Son nom, c'est Bitya. C'est devenu un nom qui répandu chez les Bnei Israël. Personne dans l'histoire juive n'a jamais eu un nom pareil. Déjà, l'étymologie est un peu surprenante. La fille d'Hachem. Dans la version masculine, on a eu des ennuis avec la version masculine, mais elle est appelée la fille d'Hachem. Personne ne s'appelle comme ça. C'est un nom tout à fait extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir un nom pareil? Et comment est-ce qu'elle est arrivée à ce qu'elle a fait? Alors Chazal nous dit dans le Midrash, c'est un Midrash au début de Vaïkra, Chazal disent la chose suivante, sur ce verset que je vous ai cité, sur ce verset de Ve'ele ibn Bitya, ceux-là, voici, ceux-là sont les fils de Bitya, la fille de Paro, Asher Lakach Mered. Lakach dans la Torah, la Kicha dans la Torah, prendre, c'est comme on dit en français, prendre épouse, prendre époux, prendre épouse, ça veut dire qu'il a épousé. Le mot veut dire prendre, mais c'est prendre épouse. Alors le Midrash dit, qui est ce Mered-là? Mered, ça veut dire, la racine de Mered, c'est, enfin, c'est, comme racine, ça veut dire la révolte. Donc, il y a quelqu'un qu'on appelle Mered. Qui est ce Mered? Qui est-il? Est-ce qu'on le connaît par ailleurs? Ou est-ce que c'est la seule occurrence de ce nom dans le Tanakh? Alors le Midrash fait le pont. Le Midrash dit, Mered, c'est Kalev. Mered, c'est Kalev. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Mered ici? Partout dans la Torah, il s'appelle Kalev. Ici, il s'appelle Mered. שמרד בעצת מרגלים. וביתיה זו, בת פרו, שמרדה בעצת אביה, יבוא מורד ויקח את המורדת. Elle s'est révoltée contre son père. Lui s'est révolté contre les Meraglim. Il était dans le groupe des 12 représentants des tribus d'Israël qui ont été envoyés pour espionner, pour évaluer les qualités du pays d'Israël. Hachem avait dit aux Bnei Israël, c'est un bon endroit, etc. Les Bnei Israël ont dit, nous, on veut voir. On va envoyer des explorateurs. Alors, vous savez bien que ça a tourné extrêmement mal. Ça nous a valu 40 ans de pérégrination supplémentaire dans le désert. De ces 10 explorateurs, de ces 12 explorateurs, 10 ont dit du mal des Bnei Israël. 10 ont dit, il ne faut pas y aller. 10 ont dit, il faut qu'on reste là où on est. 2 s'y sont opposés. L'un d'entre eux, c'était Yoshua, le successeur de Moshe Rabbeinu. Mais Yoshua, il était connu comme le successeur de Moshe Rabbeinu, comme celui qui allait succéder à Moshe Rabbeinu, comme l'élève, le grand élève de Moshe Rabbeinu. Étant donné qu'il était son grand élève, Moshe Rabbeinu lui a donné une bracha, en quelque sorte, quand il a fait partie de ses explorateurs, pour le protéger. Mais les autres, le connaissant comme l'élève de Moshe, quand il y a eu cette conspiration entre les Meraglim, entre les explorateurs, pour dire du mal des Rats Israël, pour ne pas y entrer, lui, on ne lui a rien dit, évidemment. Mais Kalev, le représentant de la tribu de Yehuda, Kalev, il était dans le coup. De Kalev, ils ont pensé qu'il était avec eux. Et c'est ce qu'on nous dit ici, enfin pas seulement ici, ce qu'on dit c'est que Kalev, lui, ou Marad, il s'est révolté contre ce projet. C'est Kalev qui, lorsqu'ils ont dit du mal d'Eretz Israël, c'est Kalev qui a, alors que tout le peuple murmurait contre Moshe, il a su retourner la situation, c'est-à-dire qu'il a réussi à prendre la parole. Personne ne pouvait à ce moment-là prendre la parole pour dire quelque chose de positif sur la terre d'Israël, de positif pour Moshe, etc. Et lui, il a trompé son monde en quelque sorte, parce qu'il a commencé, il a dit, est-ce que Ben Amram... C'est, ne nous a fait que cela, après tout le mal qu'on avait déjà dit de lui. Donc tout le monde s'est tu, ils se sont dit, il va en rajouter une couche, on va écouter ce qu'il va dire. Et puis à ce moment-là, il a dit, mais non, il nous a sortis d'Égypte, il nous a, etc. C'est grâce à lui qu'on a reçu la Torah, etc. À ce moment-là, il a réussi à retourner un peu la situation. Bon, le peuple n'a pas suivi, mais il a réussi au moins à dire ce qu'il disait, ce qu'il voulait dire, qu'on entende quelque chose d'autre que uniquement la voix des 10 en question. Et cette démarche de Kalev, c'était une démarche très dangereuse, parce qu'il risquait sa peau, évidemment. Et il est présenté comme justement celui qui s'est révolté. Et le Midrash dit que vienne le révolté et qu'il épouse la révoltée. Mais on sait par ailleurs que Kalev a aussi épousé Myriam. Donc Kalev avait deux, en tout cas il avait peut-être plus que deux, mais en tout cas il avait ses deux femmes, il avait deux épouses qui sont toutes les deux les révoltées en fait. Et lui également il est un révolté, ils ne sont pas révoltés sur les mêmes choses, mais ils ont cette qualité de révolté. Et quand on pense à ce qu'a représenté justement cette révolte, la révolte des femmes en particulier, c'était la condition sine qua non de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que le peuple juif a l'air de n'exister que grâce à cette révolte. Et peut-être que, en fait, les seuls qui vont entrer en Eretz Israël. Toute cette génération va mourir dans le désert. Ni Moshe ni Aaron ne vont entrer pour d'autres raisons. Les seuls qui vont entrer en Eretz Israël, c'est Yoshua, qui est en charge de diriger le peuple, et Caleb. Lui va entrer en Eretz Israël. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est cette dimension de révolte, surtout la révolte de la fille de Paro, de Bithya. Mais il faut préciser, quand on commence à réfléchir à ça, alors on se rappelle, ce dont nous parlons maintenant, c'est la naissance du clan Israël en tant que ce peuple qui sort d'Égypte. Mais il y a une naissance du clan Israël qui est antérieure à celle-là, qui n'a rien donné directement, qui a été récupérée par la suite, mais c'est la naissance du clan Israël avec Abraham. Or, Abraham, c'est celui qui s'est opposé à la civilisation dans laquelle il a été élevé, dans laquelle il est né, dans laquelle il est élevé. Et cette civilisation, c'est la civilisation qui a construit la tour de Babel, et le chef de la construction de la tour de Babel, le roi contre lequel Abraham Avinu s'est, disons, révolté, c'était quelqu'un qui a le nom du révolté. Il s'appelle Nimrod. Dans son nom, il y a cette même racine, même Reish Dalet. D'accord ? Le roi Nimrod, son nom disait « Je suis un révolté ». Contre qui est-ce que Nimrod était révolté ? Il était révolté contre Hachem. Hazal disent que Nimrod connaissait parfaitement Hachem, mais il était mitkaven limrod bo. Mais toute son intention, c'était d'organiser une révolte contre lui. Je sais que tu es ce que tu es, mais nous, on ne veut pas de toi, en quelque sorte. C'est ça la démarche de la tour de Babel. On construit quelque chose pour chasser Hachem. On va se faire, on n'a pas besoin de ton nom, on n'a besoin de rien, sauf ce que tu t'es engagé à donner au monde, c'est-à-dire l'énergie pour faire fonctionner le monde, mais la morale qui irait avec, les lois qui vont avec, non, on n'en veut pas. On fixera nos propres lois. C'est ça le contenu, si vous voulez, de la construction de la tour de Babel. C'est le contenu de la personnalité, enfin, c'est la personnalité de Nimrod. Alors, on a déjà dit souvent que, au fond, si on est dans un monde du tiers exclu, en quelque sorte, alors Abraham n'avait qu'à faire le contraire de ce que Nimrod faisait, puisque lui, il est révolté contre Hachem. Donc, si on se révolte contre celui qui est révolté contre Hachem, on est du côté d'Hachem, si on est dans ce monde du tiers exclu. Donc, Abraham avait quasiment un modèle. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le contraire de ce qu'il fait. Mais donc ça veut dire que la naissance du clan Israël, elle est aussi liée à une révolte. C'est pas le premier révolté, en fait. N'est-ce pas ? Le premier révolté, c'est quelqu'un qui s'est révolté contre Hachem. Mais on utilise cette révolte contre Hachem pour fabriquer Abraham. Abraham se fabrique par opposition à Nimrod. Donc, en se révoltant contre Nimrod, au risque de sa vie, évidemment, il devient Abraham, il reconnaît Hachem. Limite, il arrive à se construire et à construire ce projet d'une descendance qui va reconnaître et vivre selon les principes d'Hachem. Pour des raisons sur lesquelles je ne veux pas entrer maintenant, cette voie-là, elle a mené jusqu'à l'exil, l'esclavage en Égypte, dans lequel on a quasiment tout oublié, dit Rambam. On a quasiment tout oublié de ce que les Avot, de ce qu'Avraham, Yitzhak, Yaakov et descendants nous avaient construit, et on repart quasiment de zéro à la sortie d'Égypte, sur une autre voie, puisque Abraham, Yitzhak et Yaakov n'ont pas reçu la Torah, ils l'ont trouvée en eux, c'est le plan du monde, donc c'est notre plan à tous, et eux sont arrivés directement à la Torah par ce biais-là, et nous vivons à la suite de la sortie d'Égypte, on vit avec une Torah qui a été donnée, à laquelle donc, une Torah qu'il faut étudier, qui a été donnée, qui est la même que celle que les Avot ont pratiquée, mais nous, on l'a reçue, et notre problème, c'est l'obéissance. Eux, ils n'avaient pas ce problème de l'obéissance, puisque c'était eux-mêmes qui fabriquaient justement la loi, ils la lisaient au-dedans d'eux-mêmes, en fait. La grande question, c'est comment elle commence, la fille de Paro? Avec quoi elle commence? Elle se révolte contre son père. Mais est-ce que la révolte contre Paro, est-ce que c'est une révolte qui mène naturellement à la Torah? C'est simplement révolté. D'accord, son père, c'est quelqu'un de cruel, quelqu'un... Bon, c'est révoltant ce qu'il fait. Disons qu'elle ait compris que la démarche était révoltante. Mais on ne comprend pas vraiment comment, quand elle... C'est la fille de Paro. Elle est au bord du Nil, elle voit là-bas... Elle voit un berceau, enfin une boîte, qui flotte sur l'eau, elle... Et elle envoie... Alors, Tishlach et Amata, elle envoie sa servante. Elle va chercher cette boîte. Et on lui amène la boîte, elle l'ouvre, elle le voit, le texte aurait dû porter, elle voit l'enfant, Pasuk dit, va t'arrêter où? Elle l'a vu, l'enfant. Et ce hevav à la fin, l'apostrophe, elle l'a vu, l'enfant, cette redondance, si vous voulez. On va voir ce que Chazal va en déduire. Elle voit un enfant qui pleure, elle a pitié de lui, elle dit c'est un enfant juif, d'où elle le sait, et elle le sauve, elle décide de le sauver. Alors le Midrash dit que les servantes lui ont dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Dans le monde entier, quand un roi prend un décret, éventuellement, ses sujets le suivent ou le suivent pas, mais la maison du roi suit le décret. Toi, tu es la fille du roi et tu transgresses les décrets de ton père. Elle passe outre. En fait, il y aura par la suite un est, elles vont disparaître, sinon elles auraient été dénoncées. Et alors, elle va lui donner un nom. Alors, ce nom de Moshe, personne ne comprend ce que c'est. Quelle langue? Qu'est-ce que c'est? C'est un mot hébreu. Ibn Ezra dit c'est de l'arabe. Enfin, il veut dire probablement de l'égyptien. Qu'est-ce que c'est? C'est un mot ambigu qui veut dire qui se lit dans les deux langues. Les deux langues sont pareilles sur ce point-là. Alors ce nom-là, comment est-ce qu'elle va réussir? Qu'est-ce qu'il veut dire, ce nom? Le verset, elle explique. Elle dit, je l'appelle comme ça, je l'appelle Moshe, qui minamai meshitiu. Je l'ai tiré de l'eau. Mais dans cette discussion sur ce que c'est que ce nom-là, il y a une opinion, le Sforno dit quelque chose qui ressemble à ce qui se trouve à peu près aussi dans le Zohar. En tout cas, le Sforno, lui, dit, elle l'a appelé Moshe, et le Sforno dit, « Memalet ou Moshe et Acherim Mitzara ». Elle dit, et elle justifie, elle dit, « Ki minamai meshitiu ». C'est-à-dire, elle dit, « Je l'ai tiré de l'eau parce que il va tirer les autres de la situation d'angoisse dans laquelle ils sont. » Qu'est-ce qu'on a gagné? On ne savait déjà pas comment elle a pu le nommer comme ça. En plus, maintenant, c'est une prophétesse. Comment lui vient la prophétesse, la prophétie à la fille de Paro? Elle le nomme d'après le futur aussi. Pas seulement, elle dit, je le nomme d'après le futur parce que je l'ai sauvé. Puisque je l'ai sauvé, je lui donne ce nom-là pour qu'il sauve à son tour, en quelque sorte. Parce qu'il va sauver à son tour. Il semble que, si on veut essayer de comprendre un peu qui était cette Bat Paro qui devient Bithya, il faut regarder le peu qui en est dit dans la Torah. Dans la Torah, il y a six mots en tout et pour tout. C'est marqué « Vateret Bat Paro lichotz alayor ». La fille de Paro est descendue se laver dans le Nil. Amar Rabbi Yochanan, le Midrash dit, non, c'est la Gemara, pardon. La Gemara dans Sota dit, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Melamed sheyarda lichrotz migilulei aviha. Chen hu omer, im rachatz Hashem et tzoat benot Tzion, etc. Et Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire, elle est allée se laver? La Torah, elle va nous raconter, elle se laver, quel dentifrice elle prenait et tout. Je veux dire, ça nous intéresse énormément. L'ichot, ça veut dire l'itbol sham le shem gerut. Ce qu'elle a fait là-bas, c'est qu'elle s'est immergée dans le Nil. C'est un mikvé, ça fonctionne comme un mikvé. Elle s'est immergée en signe de conversion. C'est ce qui correspond chez nous, dans notre langage à nous, ça veut dire elle s'est convertie. Elle est allée se laver des idoles de son père, elle est allée, Rachidi, ça veut dire se convertir. Quel jour c'était? Ça on sait. Parce que mon cher Rabbeinu est né le Zayin Adar, il est né le 7 Adar. Et sa mère a pu le garder 3 mois. Donc on est le 6 Sivan. Pour ceux ou celles chez lesquels ça fait tilt, le 6 Sivan, c'est Matan Torah. Le 6 Sivan, c'est Shavuot, c'est le don de la Torah. Mais le Rambam m'explique qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï, au don de la Torah. Le don de la Torah, c'est une conversion généralisée de tous les Juifs. Tous les Bnei Israël au Sinaï se sont convertis. C'est une conversion ce qui s'est passé au Sinaï. Et le Rambam dit que toutes les conversions qui auront lieu dans l'histoire à la suite du don de la Torah seront sur le modèle qu'on a déduit de ce qui s'est passé au Sinaï. Bien sûr, c'était du feu et nous on se trompe dans de l'eau, etc. Mais le modèle, c'est ce qui s'est passé au Sinaï, dit Rambam. Donc la halakha, la loi est que ce que nous faisons aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un veut se convertir, il refait ce que nous avons tous fait au Sinaï. Tous les juifs se sont un jour... Enfin, personne n'est né juif, disent après ça. Tout le monde est la résultante d'une conversion. Enfin, personne a toujours été juif, si on peut parler comme ça. Ça veut dire que ces juifs qui sont sortis d'Égypte, ces gens qui sont sortis d'Égypte, ces gens qui ont... passer la mer, on l'a lu aujourd'hui, d'après la halakha, d'après ce que dit Rambam, ce n'était pas encore des juifs. Ils ne deviennent juifs selon la halakha qu'au Sinaï. Et donc, Elle se convertit, elle, le jour, pas l'année, le jour où les Bnei Israël, eux aussi, tous, vont se convertir. C'est une coïncidence. En fait, comment a été son cheminement? D'où vient cette conversion? Comme on l'a dit précédemment, on comprend bien qu'elle se soit éventuellement révoltée contre la cruauté des décrets de son père. Encore que ça aussi, il faut comprendre. C'est pas pour un Égyptien, probablement un esclave, c'était même pas quelqu'un de visible. Et probablement qu'il ne les voyait même pas. D'abord, on ne les leur montrait pas. Et deuxièmement, mais s'il l'avait vu, c'est pas la même chose, c'est pas autre chose qu'un caillou, une herbe. Un esclave dans ce pays. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Beaucoup d'Égyptiens distingués, égyptologues distingués, disent qu'il n'y a jamais eu d'esclavage en Égypte. Alors, c'est peut-être vrai qu'il n'y a jamais eu formellement d'esclavage. Seulement, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Au moment de Makat Bechorot, quand Hachem a frappé les premiers-nés égyptiens, la Torah nous dit que, évidemment, les premiers-nés de Paro, de toute la cour, etc., tous les gens importants, bon, ces premiers-nés-là sont morts, mais, dit la Torah, tout le monde, tous les premiers-nés sont morts, y compris le premier-né de la servante qui tourne la meule, c'est-à-dire d'une esclave. Son enfant, son premier-né à elle aussi, il meurt. Pourquoi lui, il meurt? Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a vraiment, c'est un esclave, pourquoi il mourrait? Alors, Chazal explique dans le Midrash qu'en fait, les esclaves, enfin, on pourrait dire aujourd'hui les fellahs égyptiens, ils n'étaient pas esclaves, mais c'était la même chose. Vous savez, l'esclave, c'est un mot. Est-ce qu'il faut l'appliquer ou pas aux gens qui travaillaient dans les mines ou qui travaillaient dans les filatures du Nord, etc. Où tout appartenait à l'entreprise ou au patron, etc. Y compris le droit de savoir si on avait le droit de se marier ou pas, où on allait habiter, avec qui et comment, etc. Avec tous les droits afférents et tout. Est-ce que ça ne s'appelle pas l'esclavage? C'est une convention. On appelle ça l'esclavage ou pas? Mais bon, ces faits-là sont allés chez Paro. Ils lui ont dit, nous, on ne se révoltera pas. Il n'y aura pas de Spartacus, il n'y aura pas rien du tout. Rien de tel. À la condition que les Juifs soient en dessous de nous. Si le statut des Hébreux est en dessous du nôtre, socialement, on ne bougera pas. C'est pour ça, dit Srezal, que lui aussi, il meurt. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'esclavage. Ok. Mais les Juifs étaient en dessous de ceux qui étaient de quasi-esclaves. Et donc, nous, on appelle ça l'esclavage. Le problème de savoir si l'Égypte était supérieure à la Grèce parce qu'ils n'avaient pas d'esclaves, etc. Ou, si vous voulez, si la Grèce est une dégringolade par rapport à l'Égypte. Remettre les choses dans l'ordre, c'est possible. Je ne sais pas, c'est sûr que les esclaves en Grèce, ce n'étaient pas des gens qui étaient de plein pied avec les autres, mais je ne pense pas qu'en Égypte, tout le monde était de plein pied avec la société des gens qui étaient autour de Paro. Donc, juste ce point-là, les esclaves, ils ne les voyaient pas. Et donc, même cette cruauté, d'où elle la connaissait, cette cruauté. Et puis, qu'est-ce qu'elle savait des Hébreux? Et pourquoi, quand elle le voit, on dit, bon, elle a vu, mon cher Abin avait la Mila, donc elle a vu que c'était un enfant qui avait la Mila. Donc ça, elle savait. Que si c'est la Mila, c'est un juif, ça, elle savait. Seulement, le Passouk dit que quand elle l'a vu, je vous ai dit, ce fameux, cette en français, dire une redondance, elle l'a vu, l'enfant. Réou, elle l'a vu. Chazal disent, ce Hevav, c'est la Shrina. Elle a vu qu'il y avait la présence divine auprès de cet enfant. Elle connaissait, elle savait ce que ça voulait dire, la présence divine. Tout de suite, elle a reconnu. Vous savez ce que c'est, la présence divine? Vous voyez qu'elle est là? Pourtant, elle est là. On voit pas. C'est marqué. Il y a des juifs qui sont assis, ils disent des livrets Torah, ils sont en train de manger ensemble. La Shrina est là. Elle, elle a vu. La Shrina était auprès de Moshe. Elle voit qu'il va sortir les Bnei Israël d'Égypte. Voilà, cette femme-là, elle voit quelque chose de... Il lui arrive quelque chose totalement incompréhensible. Si on se rappelle, le Paro, c'est... Pharaon, c'est un terme qui désigne tous les rois d'Égypte à une certaine époque. C'est comme le tsar, comme le César, etc. Le Paro de l'époque de Yosef, celui-là, il a rêvé. Vous vous souvenez, c'est ça son problème, c'est comme ça que Yosef est remonté de sa prison. Il rêve. Et dans son rêve, je ne vais pas raconter les deux rêves successifs, vous le connaissez, les vaches, puis les épis, ça. Mais ce qui est important, il rêve, et dans son rêve, la Torah raconte qu'il se voyait au-dessus du Nil. Et quand il raconte le rêve à ceux qui étaient en charge de l'interpréter, y compris quand il le raconte à Yosef, il ne dit pas qu'il est au-dessus du Nil, il dit « j'étais au bord du Nil ». Ça veut dire quoi? Le Nil, vous savez bien, c'est une idole en Égypte. C'est l'idole qui nourrit l'Égypte. Jusqu'au barrage d'Assouan, c'est les crues du Nil qui nourrissent l'Égypte. La question qu'a Paro, c'est « lui aussi, il est une divinité. Où est-ce que je suis dans la hiérarchie ? Est-ce que je ne suis qu'un gestionnaire de la richesse qui est fournie par le Nil ? Ou est-ce que c'est grâce à moi que le Nil donne cette richesse ? Dans son rêve, il est au-dessus du Nil. Mais il n'ose même pas le dire. Il n'ose même pas dire, même qu'en rêve, il a pensé à ça. Il n'ose pas, parce qu'il comprend très bien que s'il dit ça, on va le... tous les partisans de la divinité Nil vont lui faire des ennuis. Donc il ne le dit pas. Mais Yosef, pourquoi est-ce qu'il est tellement enthousiasmé de l'interprétation de Yosef? Pourquoi est-ce que Yosef peut se permettre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est Yosef, un esclave juif qu'on a remonté de son trou pour qu'il interprète le rêve de Paro? Qu'est-ce qu'il fait après avoir interprété? Il dit « je vais te donner des conseils ». On t'a demandé, on t'a sifflé, on t'a demandé quelque chose. Il va parler devant Paro, et il va donner des conseils à Paro. Normalement, il aurait dû être tué sur le champ. On t'a dit ce que on t'a demandé de dire, c'est tout. Qu'est-ce que tu prends la parole devant Paro? Et Paro, lui, passe tout. Pourquoi? Parce qu'il a compris, que Yosef a compris ce qu'était le rêve. Parce que ce que Yosef lui dit, c'est « tu veux être au-dessus ». Ok, alors tu n'as qu'à confier la gestion du Nil à quelqu'un qui ne peut pas te porter ombrage. C'est-à-dire, le seul qui ne pouvait pas le porter ombrage, c'est lui. Parce que confier la gestion du nourricier de l'Égypte à un dignitaire égyptien, c'était fabriquer un roi. Quelqu'un qui allait ensuite tranquillement déposer Pharaon. Mais lui, c'est un esclave. Et comme les chansons l'ont gentiment dit à Pharaon, c'est un hébreu, c'est un esclave, c'est rien du tout. Alors effectivement, il n'est rien du tout, il ne peut pas prétendre au titre de Paro. Même si on lui donne beaucoup de pouvoir, il ne peut pas en prendre plus et il ne peut pas devenir Paro à la place de Paro. C'est comme aux États-Unis, Kissinger, il ne pouvait pas devenir président des États-Unis, il est né en Allemagne. C'est tout. C'est comme ça. On peut être très grand, on peut être conseiller, etc. Mais bon, il ne pouvait pas. Il risque rien. Mais justement, il lui explique. Ben voilà, tu vas te mettre au-dessus, détaché de toutes les contingences, l'intendance, elle suivra. Tu confies l'intendance à quelqu'un d'autre. Donc toute l'histoire du Nil va être une histoire bassement matérielle. Et toi, tu t'occupes des grands problèmes. Tu deviens une vraie divinité. Extra. Paro saute sur l'occasion. Donc ce paro-là, en fait, l'explication standard, c'est que Paro, c'est par orgueil qu'il se voulait au-dessus du Nil. Mais en fait, Yosef, ce qu'il lui dit, il lui dit, c'est pas moi qui interprète les rêves. C'est Elohim qui interprète les rêves. Et donc, ce qu'il lui dit, c'est, tu peux être au-dessus du Nil. Tu peux être la divinité égyptienne. Mais à condition que tu reconnaisses Elohim. Il faut que tu reconnaisses Elohim. Si tu reconnais Hachem, tu reconnais que ça t'est donné par Hachem, alors tu peux jouer ton rôle. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est qu'un rôle que tu joues parce que, en quelque sorte, Hachem te l'a donné à jouer. Lui, il le voulait par orgueil. Mais dans ce rêve, il y a aussi cette idée que voilà le rôle que tu devrais jouer. C'est-à-dire, tu peux être aussi haut que tu veux, à condition que tu reconnaisses qu'Hachem est au-dessus. Ce que l'expérience que le paro de Moshe, cette fois-ci, va faire, c'est quoi? C'est ce qu'Hachem lui dit, tu vas commencer par être l'Elohim de paro. Paro, il dit, Hachem ne connaît pas, tu consultais le Ouzvou des divinités, il n'y est pas. Alors, il faut lui faire comprendre, d'abord, qu'il y a une divinité au-dessus de la sienne, même s'il s'imagine que cette divinité est du même ordre, simplement au-dessus, que la sienne. Et ensuite, tu lui feras comprendre que ça n'a rien à voir, mais il faut d'abord lui faire comprendre quelque chose. Il faut qu'il accepte cette situation. Donc, tu seras d'abord son Elohim, c'est-à-dire tu vas lui donner des ordres, tu vas lui dire ce qui va se passer, ce qu'il doit faire. Il ne le fera pas, mais toi, tu vas lui donner des ordres. Et probablement que cet enseignement de l'ancien paro, cet enseignement-là, il a dû arriver d'une manière ou d'une autre à la fin du paro de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'en fait, certains disent que, en fait, l'un c'est Amenophis IV et l'autre c'est Ramsès, et qu'elle était du parti de Amenophis IV, qui est un parti qui a été attaqué sous Ramsès. Vous savez, ils ont martelé toutes les stèles qui contenaient quoi que ce soit, enfin tout ce qui concernait cet Amenophis IV, qui était le fameux pharaon monolâtre. Il était idolâtre, mais il n'en avait qu'une seule d'idole. Bon, c'est une façon d'expliquer les choses. En tout cas, il faut penser que cette expérience de la relation avec le Nil, c'est-à-dire d'admettre que l'homme est au-dessus, il doit être au-dessus des phénomènes naturels, que l'homme se doit de considérer qu'il y a quelque chose au-dessus de ces phénomènes naturels que sont les crues du Nil, etc. Et c'est ce qu'elle a compris. Elle a compris que Paro, lui, se veut mettre droit de vie ou de mort. Et probablement qu'elle a compris que c'était complètement faux. Et elle a compris que ces Juifs qui sont là et qui sont les descendants de la famille de Yosef qui a sauvé l'Égypte en son temps, etc. Peut-être que ça, Ça lui a permis de faire le lien avec ces Juifs qui sont là, avec le sauvetage de l'Égypte, avec les valeurs qui ont sauvé l'Égypte, les valeurs de celui qui a sauvé l'Égypte. Ibn Ezra dit qu'elle a appris la Shana Kodesh, qu'elle a appris l'hébreu, disons. Tout ça, c'est la même chose. Ça veut dire qu'elle a compris qu'il y avait quelque chose à chercher là. Et surtout, ce qui fait sa grandeur, la grandeur de cette femme, c'est en fait son bitachon, c'est-à-dire c'est sa confiance en Hachem. Et c'est qu'elle risque gros. Je sais pas, si les servantes la dénoncent, elle est morte. Toute fille de Paro qu'elle était. Or, elle n'a pas tué les servantes. C'est marqué dans le Midrash que l'ange Gabriel les a fait disparaître. Mais elle n'avait aucune assurance que ça se passerait comme ça. Donc elle prend un risque fou en s'occupant de ce manger. Elle prend un risque à le faire entrer dans le palais, à l'élever dans le palais. Dans le palais de celui qui a décrété qu'il fallait tous les tuer, tous ces garçons. Elle est en train d'élever un de ses enfants-là, un de ses enfants. Et ça aussi, Moshe, quand il sort, je vous le dis, à 17 ans, à 20 ans, c'est marqué « Vayetse Elechav ». Il sort vers ses frères. « Vayar Vesivlotam », il a vu leur souffrance. Ses frères, ces gens-là qui sont en train de fabriquer des briques, qui sont des esclaves, qui sont moins que rien, qui peuvent même plus rentrer chez eux, pour vivre une vie normale, ils doivent dormir sur les chantiers parce que Paro ne voulait pas qu'ils aient des enfants, donc ils ne veulent pas qu'ils puissent rentrer chez eux. Ils dorment sur les chantiers et tout, ils n'ont rien. C'est ses frères, à lui, prince d'Égypte. Et bien sûr, il a été allaité par sa mère, mais comme la plupart d'entre vous savent, ça s'arrête assez vite, l'allaitement. Donc il n'était plus chez sa mère depuis ce moment-là. Il a été élevé au palais. Qui a fait son éducation à ce Moshe pour qu'il puisse sortir et considérer comme ses frères et de voir leur souffrance. J'avais dit dans un précédent même la Malka, que le Midrash dit qu'il est allé les soutenir moralement. Donner un coup de main, comme on dit. Mais en fait, ça veut dire les soutenir moralement. D'où est-ce que ça lui est venu? Ça ne peut lui venir que de Bithya. C'est son éducation. Et non seulement elle a fait tout ce chemin, mais elle est capable d'éduquer un enfant dans le palais de Paro. Ça veut dire que Moshe, c'était un prince. Il a fait tout ce que faisaient les princes. Il était de tous les, je sais pas quoi, de toutes les cérémonies. Il était certainement de tout ce qui s'est fait. Il a reçu tous les enseignements que reçoivent les princes d'Égypte. Si ça se trouve, s'il était encore probablement le prince héritier, il était le gestionnaire en tout cas à ce moment-là. Donc, il a emmagasiné toute l'idolâtrie égyptienne, toute la civilisation égyptienne. Qu'est-ce qu'il y avait contre ça? L'enseignement de sa mère. Qu'est-ce qu'elle avait pour enseigner sa mère? Vous croyez qu'elle avait le Schottenstein, elle avait la traduction anglaise du Talmud, et qu'est-ce qu'elle avait? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'elle avait compris? Qu'est-ce qu'elle a compris? En tout cas, on ne sait pas exactement tout ce qu'elle a compris. Mais elle a compris des choses qui lui ont permis de poser des gestes, de poser des actes tellement extraordinaires, des actes par lesquels elle risquait sa peau. D'accord, c'est beaucoup de gens ont risqué leur peau pour des idées, mais elle risque sa peau, elle perd tout ce qu'elle, elle risque tout ce qu'elle, de perdre tout ce qu'elle, elle va le perdre effectivement. parce qu'elle adhère à des valeurs. Elle va changer sa vie, elle va épouser ce Kalev, elle va épouser un de ces gens-là. Elle va sortir d'Égypte avec eux. Elle part. Elle abandonne tout. Tout son statut, etc. Elle sera une épouse, une des deux épouses de Kalev. Pourquoi ? Parce qu'elle a été capable de se révolter. Donc la révolte lui donne cette force et lui donne aussi ce mérite, ce sroute, effectivement. Je vous disais, pour pouvoir se révolter, il faut du bitachon, il faut de la confiance. Il faut un point d'appui, en quelque sorte, pour soulever ce monde-là, pour... La Torah, d'Israël, elle a été donnée à ceux qui mangeaient de la manne. À des gens qui mangeaient de la manne. Ceux qui avaient suivi Hachem dans le désert. Le Navi Yirmiya dit « Zacharti lach chesed neuraich, lechtech achraï bamidbar beretz lozroa. » Je me souviens du chesed, de la tendresse, de la bonté que tu as manifestée, toi le clan Israël. Tu m'as suivi, dit Hachem, dans le désert. Il n'y avait rien qui poussait là-bas. Il n'y avait rien. Tu m'as suivi, c'était complètement fou de suivre Hachem à ce moment-là. Ça aussi, c'était complètement fou. Et la fille de Paro était aussi dans ceux qui ont suivi. Elle est aussi dans ceux qui ont mangé de la manne. Manger de la manne, ça veut dire se nourrir d'une nourriture purement, quasiment spirituelle. Une nourriture tout à fait extraordinaire. Apprendre dans cette... Quel est le problème de la manne ? Finalement, ça nourrit. Oui, mais le problème de la manne, c'est que ça tombait tous les jours et on ne pouvait pas faire de provisions. Si on faisait des provisions, ça pourrissait. Donc il fallait se fragiliser. Tous les jours, à la fin de la journée, tu n'as plus à manger pour demain. Il n'y a rien. Il faut apprendre à vivre comme ça. C'est des gens qui ont appris à vivre comme ça qui reçoivent la Torah. D'une confiance absolue en Hachem. Et souvent que dire qu'on a confiance en Hachem, tout ce qui concerne Hachem, c'est totalement exclusif. C'est-à-dire, si on craint Hachem et aussi autre chose, ça ne s'appelle pas craindre Hachem. Craindre Hachem, c'est ne craindre qu'Hachem. Être libéré de toutes les autres craintes. C'est d'abord libérateur de toutes les autres craintes. En sachant qu'il n'y a que ça qui soit à craindre, mais c'est une crainte de quelqu'un qui ne me veut que du bien, qui n'a pas d'intérêt. C'est ça qui me libère, en fait. C'est-à-dire que, bien sûr, il va falloir faire un effort. Il faut aller le chercher, la chercher, cette manne. Les grandes tzadikim, pour eux, ça tombait à la porte. Mais le commun des mortels, il fallait aller le chercher. Donc il y a un effort à faire. À la fois, je fais un effort, mais c'est complètement dissocié du résultat. Je ne peux pas dire, ben voilà, aujourd'hui je vais... On va en manger moins, on va en laisser pour demain, etc. Pas du tout. Si tu laisses moins, ça pourrit. Donc on est obligé de vivre à ce niveau-là pour pouvoir recevoir la Torah. Et donc la révolte de Bithya, c'est la révolte contre toute société en l'occurrence, l'Égypte, c'était la grande société. L'Égypte, c'est le grand modèle. Beaucoup disent que la Grèce n'est qu'une copie de l'Égypte. C'est discuté. Black Athènes, c'est très discuté, mais ça existe quand même comme idée. Il y a sûrement du vrai, même si ce n'est pas aussi marqué qu'il le dit. Voilà. Il y a une fille qui descend au fleuve. Elle risque tout. Ce qu'elle est allée faire, ce n'est pas la promenade au phare ou ailleurs. Ouais. Elle ne va pas se baigner. Elle va se convertir. Et Hachem met sur son chemin, dès le moment où elle a ce geste de conversion, Hachem la met en position de sauver celui qui va sauver le clan d'Israël. C'est Hachem qui a sauvé le clan d'Israël, c'est juste. Mais celui qui est l'intermédiaire de ce sauvetage, celui par lequel la Torah va être donnée. Toute la Torah a été donnée, la Torah c'est la prophétie de Moshe Rabbeinu. La Torah c'est ce qu'Hachem a dit au clan d'Israël par la bouche de Moshe Rabbeinu. Ce Moshe Rabbeinu, celle qui a fait Moshe Rabbeinu, c'est Bithya. Moshe Rabbeinu, il a une origine. Il n'est pas tombé du ciel. Il a des parents. Bien sûr, ses parents l'ont conçu. Ses parents lui ont donné ce qu'ils pouvaient lui donner. Ils sont ses parents. Mais il a une deuxième mère. Il a une deuxième mère. Une mère qui, effectivement, ne l'a pas mis au monde. Mais d'abord, elle l'a ramené dans le monde parce qu'il était quasiment mort. C'est pas sur le Nil, il était. On l'a mis sur le Nil pour qu'il advienne que pourra. Ils n'allaient pas le tuer de leurs mains, mais sans espoir. Donc elle le tire du Nil. Elle le fait sortir de l'eau, en fait. Pour qu'il puisse, lui, ayant été tiré du Nil, sortir les Bnei Israël aussi du Nil. Enfin, de l'Égypte. Le Nil, c'est l'Égypte. Il y a cette idée que le clan d'Israël, en fait, il naît grâce à ces deux révoltés. J'ai peu parlé de Myriam parce que tout le monde connaît Myriam. Mais bon, c'est une femme absolument exceptionnelle. Elle aussi. Elle a été celle qui a mis en rapport, celle qui a permis à Moshe Rabbeinu de survivre. Le Midrash dit qu'il ne voulait pas boire le lait des nourrices. Il n'aurait pas vécu s'il n'avait pas été nourri par sa propre mère. Une façon de dire que Myriam, elle aussi, l'a sauvé. D'abord, elle a été la cause de ce qu'il a existé, puisque ses parents s'étaient séparés. Donc, c'est elle qui a poussé les parents à se remettre ensemble. Donc ce sont ces femmes-là, ces révoltées contre leur père. Mais la grandeur, la différence, il y a beaucoup d'autres différences, mais la différence entre Amram et Paro, c'est qu'Amram a écouté sa fille. Paro, je ne sais pas s'il a écouté sa fille, je ne sais pas si elle a essayé de lui dire quelque chose. On n'en a pas de trace. Elle a peut-être pensé qu'il n'y avait rien à faire, qu'il n'allait pas écouter ce qu'elle allait lui dire. Si on regarde, ce qu'on fait toujours j'essaie de regarder ce que c'est que cette idée de révolte. Dans la Torah, il est marqué deux fois cette notion de révolte. Une première fois, c'est avant la guerre que Avraham Avinu a faite pour aller délivrer Lot, la guerre des quatre rois contre les cinq rois. C'est marqué que ces quatre rois qui étaient normalement, qui auraient dû être soumis aux autres, se sont révoltés contre les autres rois. C'est la première occurrence, en fait, de cette notion de révolte, du mot de Maradou, donc, de ce mot de Mered, de révolte, Cette première occurrence, c'est celle d'une, simplement d'une révolte pour des questions matérielles. C'est un peuple qui doit payer un certain tribut à un autre. Enfin, c'est plusieurs exemples. Et dans ceux qui se révoltent, qui ne veulent plus payer, etc., il y a entre autres le roi de Sodome. Le fameux roi de Sodome. Et il y a dans ceux qui sont avec le roi de Sodome, celui qui habite à Sodome, c'est-à-dire Lot, le neveu et le beau-frère d'Avraham Avinu. C'est lui qui va aller, c'est pour ça qu'Avraham Avinu va aller le chercher. C'est la première occurrence. Et la deuxième occurrence, c'est justement, c'est Kalev qui parle. Et c'est Kalev qui dit au Bnei Israël, quand il y a la grande discussion, est-ce que on va aller ou on ne va pas aller en Eretz Israël, il leur dit, la conquête est possible, la terre est très bonne, l'essentiel c'est, il dit au Meraglim, il leur dit, Ach Bashem al Timrodu. Mais surtout, ne vous révoltez pas contre Hachem. Lui, qui est le révolté contre les autres Meraglim, il leur dit, ne vous révoltez pas contre Hachem. La révolte, c'est nécessaire, mais pas contre Hachem. Si vous vous révoltez contre Hachem, alors, ben voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont effectivement révoltés contre Hachem, et on a pris 40 ans de la destruction de toute la génération. Toute la génération qui est sortie d'Égypte, toute la génération qui a reçu la Torah, à l'exception de Joshua et Caleb, ils sont tous morts. Tout le monde est mort, tous ceux qui étaient adultes à cette époque. Tous, sans aucune exception. Donc il n'est rien resté de ceux, à part Joshua et Caleb, il n'est rien resté de ceux qui, adultes, ont vécu cette époque. Et là, ça, c'est les deux seules occurrences qu'il y a. Mais il y a un chapitre dans le Sefer Yoshua, il y a un chapitre, c'est le chapitre 22, qui parle beaucoup de cette notion de révolte. Et là-bas, il y a cinq occurrences dans ce seul chapitre de ce mot, de cette racine de révolte. Et là-bas, la crainte, c'est la suivante. Vous savez, quand on est entré en Eretz Israël, il y a deux tribus et demie, Reuven, Gad et la moitié de la tribu de Menaché, qui ont dit, nous, on ne veut pas franchir le Jourdain, on est très bien de ce côté du Jourdain, parce qu'il y a là-bas des pâturages, nous, on a des grands troupeaux, c'est tout à fait adéquat pour nous. Et donc, on ne veut pas passer le Jourdain. Bon, ça fait un grand scandale, ils ont dit, d'accord, on va aller faire la guerre avec vous, mais ensuite, nous, on veut s'établir dans cette partie-là d'Eretz Israël, la partie qui est de l'autre côté du Jourdain. Pas là où tout le monde sera installé, mais de l'autre côté. Et là-bas, toute la question dans ce chapitre de Sefer Yoshua, du livre de Yoshua, là-bas, ces deux tribus et demie ont construit un hôtel. Exactement sur le modèle de l'hôtel du Mizbeach de Shiloh, du Mizbeach qu'il y avait dans ce qui était l'ancêtre du Beth Amikdash, du Temple. Et alors, tout le monde a cru qu'ils allaient faire un culte parallèle, en fait. Ils allaient développer un culte parallèle, qu'ils allaient devenir une autre nation, etc. Et eux ont fini par expliquer, non pas du tout. Nous, on craint qu'un beau jour, les gens, la majorité des Juifs, là, qui sont de l'autre côté du Jourdain, disent « Mais on n'a rien à voir avec vous. » Alors, on a construit cet hôtel, qui est une réplique de celui de Shiloh, pour leur dire à ce moment-là, « Regardez, nous sommes vos frères, nous avons le même culte que vous, on ne fait rien, on fait pas de sacrifice sur cet hôtel. Simplement un signe, un rappel de fraternité, en quelque sorte. Pour pas qu'on puisse nous exclure et faire de nous une autre nation. Donc, les uns soupçonnaient, les deux tribus et demie, de vouloir être une autre nation, et les deux tribus et demie soupçonnaient les autres qu'un jour, on dira, vous n'êtes pas nos frères puisque vous êtes de l'autre côté du Jourdain, etc. Et donc chacun, en fait, soupçonnait l'autre, les uns dans l'immédiateté, dans l'immédiat, pardon, et les autres dans le futur. Et là-bas, chacun dit, traite l'autre de, enfin, une crainte d'une mérida, d'une révolte, justement, pour que vous puissiez pas, ne vous révoltez pas contre le reste du clan Israël, et puis ensuite, ne vous révoltez pas au sens où ne nous mettez pas à l'écart. Donc, ce qu'on entend ici, c'est que dans cette notion de révolte, ici, qui est quasiment là, disons, les occurrences les plus, l'occurrence la plus fréquente, elle est dans ce contexte-là, si ça a un sens de juger par la fréquence, ici, ça veut dire que le problème, c'est justement être une autre nation. La révolte, c'est justement devenir complètement autre. Devenir réellement autre, et c'est ce qu'elle a fait. Elle, Bithya, a décidé d'être complètement autre que ce qu'était son père. Ce n'est pas une révolte, et puis simplement on tape dessus, mais on reste tel quel. Elle s'est révoltée, et elle a passé complètement de l'autre côté. Elle s'est convertie, elle s'est mariée avec Caleb, etc. Elle a suivi l'Ibn Israël, etc. Et ensuite, il y a la révolte de Myriam. Elle, quelque part, elle se révolte contre son père. Elle dit que son père, finalement, quelles que soient les bonnes intentions qu'il a, il fait quelque chose qui est encore pire. Il est du côté de Paro et encore plus loin que lui-même. Donc elle dit, si tu fais comme ça, tu appartiens, tu deviens comme Paro. Finalement, tu fais quasiment plus. Il n'y a plus de peuple juif, tu es en train d'amener le peuple juif du côté de Paro. Et l'autre, bon alors, le révolté par celui qui s'annonce, qui se présente comme « me voici révolté », sur son t-shirt, c'était écrit en grand « Nimrod », le révolté, ça, lui, effectivement, il dit « je connais Hachem, j'en veux pas ». Je connais, mais j'en veux pas. Et il a fallu, donc, il sert de référence, en quelque sorte, pour Avraham Avinu, qui va inventer le chemin vers Hachem, par opposition, par révolte contre la révolte. C'est-à-dire, en fait, il va, lui, rencontrer Hachem de cette manière-là, de cette façon. On a l'impression que la condition pour que le clan Israël reste entier, pour que le clan Israël existe, pour qu'il y ait dans le clan Israël des gens qui soient capables de le diriger, il faut de telles révoltes. Alors, premièrement, on voit que il y a deux révoltes. Il y a la petite révolte, on peut dire, de Myriam qui est de l'intérieur. Et puis il y a une révolte à l'extérieur qui permet d'entrer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un élément, la révolté Bithya, qui a le nom le plus extraordinaire qui ait jamais été porté. Personne ne porte un nom pareil dans le clan d'Israël. Personne n'a un statut comme celui de Bithya. Il t'appelait la fille d'Hachem. Hachem lui dit, tu es ma fille. Il l'a dit à personne. Caleb, lui, il est considéré comme le Eved d'Hachem. C'est un nom que seul Moshe Rabbeinu porte. Donc sa révolte à Caleb le met d'une certaine manière à la hauteur de Moshe Rabbeinu. C'est une révolte. Il n'a pas suivi les Meraglim. C'est intéressant, ça n'a servi à rien, sa révolte. Il n'a pas retourné la situation. Il n'a pas été suivi par les autres explorateurs, et donc pas été suivi par le peuple. Le peuple a continué de penser, nous ne voulons pas aller en Eretz Israël. Mais sa révolte, elle a changé sa vie à lui, elle lui a permis d'entrer seul, quasiment, sauf Yoshua qui avait un autre rôle, entrer en Eretz Israël. Il est le seul survivant. Il est, si quelqu'un est porteur de toute l'histoire du clan d'Israël qui sort d'Égypte et qui arrive en Eretz Israël, c'est lui. Moshe Rabbeinu n'est pas entré, Aaron n'est pas entré, personne n'est entré. Yoshua, mais bon, lui, il avait la charge de diriger le peuple. Et dans les gens qui ne sont pas en charge de diriger le peuple, c'est lui. Un seul. Il est le seul. On ne voit pas, par ailleurs, que lui-même ait rayonné au-delà de ça. Simplement, il a donc épousé ces révoltés, là, et il a une fille. C'est pas clair si cette fille est la fille de Myriam ou la fille de Bithya, qui va épouser Othniel. Pour terminer, Othniel, c'est celui qui a fait quelque chose de très important pour le clan d'Israël. Au moment de sa mort, enfin, lorsqu'il allait mourir, Moshe Rabbeinu a appelé Yoshua, il lui a dit, je vais mourir, si tu as des questions, pose-moi les questions. C'est maintenant, pose-moi les questions que tu as. Et Yoshua lui a dit, mais tu as écrit et tu as témoigné dans la Torah que j'ai jamais quitté le Beit HaMidrash. J'ai pas de questions, j'étais tout le temps là. Moshe Rabbeinu est mort, enfin il a disparu, il est mort, on ne sait pas où il est enterré. Yoshua a oublié 3000 halakhot. Il a oublié 3000 lois. Alors le peuple dit, bon, c'est... ils ont voulu le lapider, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ce chef qui oublie la loi ? Ils ont décidé, on va le tuer. Et c'est Othniel, par la force de son raisonnement, avec ce qu'on avait avec ce qu'on savait par ailleurs, on voit donc qu'il y a une certaine unité, une certaine redondance. C'est pas la Torah, c'est pas le minimum, si vous voulez, au sens. Elle n'est pas écrite de façon minimale, puisqu'avec ce qu'il avait encore, il a pu reconstituer par sa réflexion, ses déductions, etc. Il a reconstitué les 3000 à la faute. Donc il a sauvé la mise à Yoshua, sauvé la vie de Yoshua d'ailleurs, et il a remis ses halakhot, ses lois, qui étaient nécessaires pour la survie du clan d'Israël. Il les a redonnés au clan d'Israël. Et lui, c'est le gendre de Caleb, avec une fille de Caleb, dont je vous ai dit, je ne sais pas, pas seulement moi, je crois que personne ne sait réellement si elle est la fille de Myriam ou la fille de Bithya. Voilà ce que, pour l'instant, je sais de ces deux révoltés. Moi, elles m'ont sérieusement impressionné. Vous, je ne sais pas.